Le débat du jour,
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. Des élections générales se tiennent au Mexique ce dimanche. Les scrutins doivent désigner le président, mais également plus de 18 000 élus à divers échelons. La campagne a été marquée par une violence sans précédent. Des dizaines d'hommes, de femmes politiques ont été tués durant cette période. Le président sortant, Monsieur Nieto, ne peut se représenter. La porte s'ouvre donc en grand sur une possible nouvelle ère. Le monde politique est celui du narcotrafic, ont tissé tant de liens que la lutte contre la corruption est devenue absolument cruciale. Un candidat affirme clairement sa volonté de moraliser la vie politique. Il est le favori. Dans ce pays grand comme quatre fois la France, qui compte 125 millions d'habitants, la tâche semble pourtant particulièrement difficile. Alors, le Mexique peut-il sortir de la violence et de la corruption ? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Je commence avec vous, Maria Martinez. Vous êtes doctorante à Sciences Po. Vous travaillez sur la criminalité et la violence au Mexique. Bonsoir, Maria Martinez.
Bonsoir.
Et puis, Alain Musset, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, géographe, spécialiste du Mexique et de l'Amérique latine, auteur d'un livre intitulé « Mexique, c'est dans la collection Que sais-je ». Bonsoir Alain Musset.
Bonsoir.
Et merci à tous les deux de nous rejoindre dans le studio de RFI. Alors je sais que la tâche est difficile Alain Musset, mais je vais vous y risquer. Comment vous décririez le Mexique d'aujourd'hui à la veille de ces élections, rapidement ?
Très rapidement, à la veille des élections, je crois qu'on peut rappeler deux choses qui collent à la peau du Mexique. La cucaracha, ya no puede caminar, c'est-à-dire la révolution. Et puis une phrase attribuée à l'ancien dictateur Porfirio Diaz, pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. C'est pas complètement faux, il l'a jamais dit, mais on est vraiment dans une situation où le poids des États-Unis et de Trump va jouer un rôle très important. A joué un rôle très important sur la campagne. Et le Mexique, à l'heure actuelle, c'est une des puissances économiques mondiales, il ne faut pas l'oublier, mais qui est extrêmement fragilisée par des structures qui posent effectivement problème. Et vous l'avez dit, le narcotrafic et la corruption font partie de ces problèmes-là. Mais ce serait trop facile de limiter les problèmes du Mexique à ça, parce que en France, on a tendance à dire cartel, 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 et on a tout expliqué, et on n'a rien expliqué quand on a dit cartel.
Ça génère quand même une violence et une corruption assez peu banale, on va dire, au Mexique.
Oui, il y a de la violence. Ce serait impossible de le nier. Maria, qui travaille dessus à ses risques et périls, le sait encore mieux que moi. L'année dernière a été une année particulièrement abominable. À peu près 30 000 morts. À peu près, on ne va pas commencer à chicaner. Et vous l'avez dit, on tourne aux entours là pour cette campagne électorale à 130 morts de candidats candidat, c'est effectivement une plaie, je dirais, typiquement mexicaine.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce portrait express, Maria Martinez ? Peut-être parler des femmes qui subissent les violences dans ce pays particulièrement.
Oui, en particulier, c'est vrai que les femmes sont des victimes assez particulières, pas tout simplement parce que, même si la majorité des hommes qui sont victimes, des victimes sont des hommes, et par rapport aux femmes, il y a un phénomène assez particulier, parce que c'est pas tout simplement l'homicide, mais aussi des agressions en particulier. Et on va voir toujours comment c'est un système en général d'impunité qui met aux femmes dans une situation vraiment faible. Et c'est choquant à quel point les candidats, soit au niveau de la présidence, soit ceux qui vont aller pour la gouvernature, neuf États fédérés, ce sont sur compétition, et il n'y a personne qui a dit quelque chose en particulier sur les féminicides. Comme si c'était n'importe quoi, comme si c'était pas vraiment déjà une tendance assez marquée sur des États comme Veracruz, comme Estado de México, comme Puebla, qu'il n'y a pas tout simplement des violences, mais en particulier des violences contre les femmes.
Bon, on l'évoque. On va s'arrêter un petit peu, et tout d'abord, sur M. Obrador. Alors, puisqu'il est à la fois le favori des sondages et celui qui promet de changer les choses. Est-ce qu'il est crédible, Alain Musset ?
Alors, oui, alors il faut pas oublier que c'est quand même un vieux routier ou routard de la politique. Il a toujours fait ça, il a 64 ans maintenant. C'est quelqu'un... à son passif, je dirais, qui est issu du PRI, c'est-à-dire du parti au pouvoir actuellement et qui a gouverné le Mexique pendant environ 70 ans avant. Donc, c'est pas une image neuve, c'est sa troisième candidature, mais elle est porteuse d'espérance. Il faut le dire aujourd'hui, parce que il se détache un petit peu des autres. Son mouvement, Régénération Nationale, a séduit le public. Il a dans les enquêtes, il est en tête, mais il a toujours été en tête jusqu'à présent. Il a toujours été battu, mais ce coup-ci, il est vraiment, vraiment très largement en tête. Donc, il peut apporter quelque chose, et notamment, c'est le seul, parce que, en gros, si on regarde tous les programmes, on a les mêmes thématiques qui reviennent. On va lutter contre la violence, contre le narcotrafic, le crime organisé, contre la corruption, contre les inégalités. On va essayer de rééquilibrer avec les États-Unis, c'est des choses qu'on retrouve partout. Mais lui, il apparaît réellement de gauche, parce que il est contre le système néolibéral. Il le dit, d'ailleurs, les entrepreneurs mexicains ne le supportent pas franchement. Il a déclaré aussi qu'il était contre les privatisations. C'est un gros débat, la privatisation de Pemex, qui est le grand symbole de la révolution en 1938 avec sa nationalisation. Là aussi, c'est quelque chose qui a fait des vagues dans la société mexicaine. Donc, il apporte quelque chose de neuf et il a une équipe autour de lui. Il n'est pas tout seul.
Combattre la violence, l'insécurité. Il semble que les enjeux, Maria Martinez, de ces enjeux de sécurité, de transparence, soient l'objet de promesses finalement à toutes les élections, sans que la situation manifestement s'améliore.
Oui, oui, bien sûr, parce qu'à la fin, c'est vraiment facile de faire la promesse de changer quelque chose. Parce que la corruption comme sujet, c'est quelque chose qui va bien toucher les électeurs. Parce que tout le monde a cette idée l'idéal d'un Mexique sans corruption. Mais les problèmes, et en particulier, et AMLO, il a fait toujours l'offre. Je dirais qu'en fait, la corruption, ça a été les sujets au cœur de son discours. Ce qu'il a fait, des allers-retours partout, par rapport à la privatisation, il a dit des choses et puis il recule.
C'est vrai.
Mais la corruption, sur la corruption, il va toujours avec l'idée que c'est moi qui va finir avec la corruption. Et avec une formule assez facile. Il dit toujours, je vais balayer l'escalier de haut au bas. Et c'est donc toujours l'idée que lorsqu'il arrive au pouvoir, on va tout finir avec la corruption. Là, le problème avec ce type de choses, comme dans toute l'histoire des essais au Mexique, c'est qu'on n'a pas vraiment de transformation institutionnelle qui vient des élites politiques. S'il y a eu des choses assez différentes, des initiatives, l'idée d'un procureur autonome, ça vient de la société civile organisée. Donc lui, par exemple, il a dit qu'il ne veut pas soutenir l'idée d'un procureur autonome. Et ça fait difficile vraiment, pas tout simplement la lutte contre la corruption, mais plutôt de résoudre les problèmes de l'impunité au Mexique. 90% des délits au Mexique restent sans aucune conséquence par rapport au système judiciaire. Mmh. C'est pas tout simplement les homicides, mais n'importe quel autre crime. Donc comme ça, c'est vraiment difficile de changer.
Ça veut dire qu'il y a une justice qui marche mal, c'est ça?
Ce qui ne marche pas.
Qui ne marche pas du tout.
Qui marche, c'est vraiment exceptionnel. Et on a toujours des nouvelles sur ce type de choses au niveau de les scandales. Et par exemple, les étudiants disparus à Ayotzinapa ont créé un grand scandale international. Mais ils ne sont pas vraiment des cas exceptionnels. Il y a des autres cas qui restent anonymes, parce qu'ils n'ont pas des organisations derrière eux. Mais il y a des cas qui restent anonymes et qui sont des cas quotidiens. Mmh. Bien sûr, si quelqu'un arrive avec cette idée de gauche en train de dire c'est moi qui va changer tout, et je crois que les gens sont en train de voter par l'idée de changer. On essaie dans quelle direction on va y aller, mais quand même on va changer.
D'accord. Alors AMLO, je le précise pour nos auditeurs qui ne suivent pas l'actualité mexicaine, c'est Monsieur Obrador.
Ah oui.
C'est les initiales de tous ses prénoms.
Andrés Manuel López Obrador.
Voilà, AMLO.
On le connaît comme AMLO.
Oui, AMLO. Tout le monde le connaît comme ça.
Oui, et son mouvement, en fait, cette dernière élection s'appelle AMLOVE.
Alain Musset, qu'est-ce qui fait penser que Monsieur Obrador serait donc plus efficace que ses prédécesseurs dans cette lutte contre la corruption et contre la violence au Mexique?
Ah ben moi je suis pas du tout convaincu qu'il sera plus efficace que les autres, c'est ça qui est terrible. Il a un discours qui est ferme, mais il y en a d'autres avant lui qui ont eu des discours fermes et ça n'a pas donné. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que justement ce problème de la corruption, c'est à tous les niveaux. Hein, c'est à tous les niveaux. C'est pas seulement les grands qui se gavent, c'est les tout petits. Le policier dans la rue qui va faire semblant de vous arrêter pour vous extorquer ce qu'on appelle une mordide. Hein, c'est-à-dire, au lieu de payer l'amende, vous le payez à lui. Donc, c'est à tous les niveaux, c'est dans la société. Et je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé au Mexique, c'était en 1984, on avait des amis mexicains qui protestaient déjà contre la corruption, hein, bien évidemment, comme leurs parents avant eux et leurs arrière-grands-parents et leurs arrière-arrière-grands-parents. Et une fois, on doit aller chercher les tortillas à la tortilleria. Et il y avait une queue de 50 mètres. Donc moi, je me mets à la queue et je vois mon copain qui part devant. Et puis, 5 minutes après, il revient avec les tortillas. Je lui dis, bah, comment tu as fait ? Je lui dis, bah, j'ai donné de l'argent à une personne qui était deuxième dans la queue. Il a pris les tortillas pour moi. Je lui dis, mais c'est un acte de corruption que tu viens de faire. Tu protestes, mais tu fais comme les autres. Mmh. Et je me souviens, il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Yo soy mexicano. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison ? Je pense pas.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je suis mexicain.
Ah, d'accord. Mais, alors, Alain Musset n'y croit pas. Hein, manifestement, l'efficacité de Monsieur Obrador. C'est vrai qu'on a l'impression que l'économie du pays, Maria Martinez, est basée en partie, en tout cas, sur l'argent de la corruption et du narcotrafic. C'est une réalité économique?
Enfin, je n'ai pas tout simplement sur les narcos. Enfin, là, on n'a pas vraiment des données sur lesquelles on peut bien faire des conclusions. Parce que c'est difficile à mesurer ce type de marché. D'accord. Et c'est vraiment facile pour tous de dire, bon, les marchés de la cocaïne qui représentent enfin, tel pourcentage de PIB. Mais en fait, c'est vraiment difficile de mesurer quelque chose de clandestin. Mais c'est vrai qu'il y a un component assez important de l'économie mexicaine qui repose pas tout simplement sur des activités illégales, mais aussi des activités informelles. Et cette marché, c'est énorme. Et la frontière entre l'informalité et l'illégalité, c'est tellement poreux, c'est vraiment difficile de fixer la frontière. Parce qu'il y a, par exemple, des pratiques comme des vendeurs à la rue. Et là, ils payent à quelqu'un qui leur représente. Et cette personne s'enrichit toujours avec l'argent qui est... Il n'y a pas vraiment une structure institutionnelle, l'État, disons, pour mettre en ordre, pas tout simplement les vendeurs, mais aussi leurs représentants. Donc là, c'est des petites structures de mafia qui peut-être ont certains liens avec les trafics de drogue, ou pas. Mais en général, il fonctionne comme des mafias.
Alors c'est cela que M. Obrador veut combattre manifestement de haut en bas, si je vous ai bien compris.
Lorsqu'il arrive.
Favoriser des sondages, mais ça ne veut pas dire vainqueur de l'élection, parce qu'au Mexique, le candidat du système n'est pas favori des sondages, souvent, et il finit toujours par s'imposer à la Musée.
Non, mais excusez-moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, et je crois que Maria, elle est d'accord avec moi. D'abord, que veut dire système ? Déjà, je suis le candidat du système. Est-ce qu'il y a un candidat du système ? Les trois principaux candidats font partie du système, disons-le, aussi bien du côté du PAN, hein, du Parti d'Action Nationale, que du PRI, qui est l'ancien parti au pouvoir, ou Morena, qui est là. Ils sont intégrés dans le système, hein, ils sont pas du tout hors système. Et en plus, maintenant, avec ce système où, et alors là, j'utilise le terme, où ce sont des coalitions qui se présentent, ça ne fait que renforcer le poids du système. Vous avez, par exemple, dans la coalition Juntos, Haremos Historia, donc avec Morena, vous avez le Parti des Travailleurs, le Parti de gauche, c'est tout à fait normal, mais vous avez aussi le Parti de Encuentro Social, qui lui est un parti de droite chrétienne et de droite plutôt dure. Donc pour les électeurs et les électrices, comment se retrouver là-dedans ? Surtout que le Parti d'Action Nationale, qui est de droite, lui s'est allié avec le PRD, qui était la grande opposition de gauche. Ça devient quelque chose d'absolument incroyable. Je ne vois pas comment les électeurs et les électrices pourraient se fier à ce système-là, justement. Donc, effectivement, ce sont les personnalités qui émergent et les gens ne vont pas voter pour la coalition. Ils vont voter pour AMLO parce que AMLO est porteur, peut-être, d'espoir et de changement.
Et il semble, en tout cas, prêt à faire un certain nombre de concessions à l'électorat conservateur pour arriver à ses fins, manifestement. Maria Martinez, Vous observez ça de très près. La lutte se poursuit. Il y a des cas de gouverneurs qui sont poursuivis, par exemple, au Mexique. J'ai lu ça. Des policiers suspendus de leurs fonctions. Jusqu'à quel point l'État peut-il être un contre-pouvoir à la puissance des mafias au Mexique?
Et je crois que la question, c'est à quel point ils sont intéressés à être vraiment contre la puissance de trafic de drogue et des cartels en particulier, mais aussi dans des autres types de comportements mafieux.
Et il faut savoir. Non volonté politique, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Mais pas tout simplement la volonté politique, mais aussi la volonté de faire des collusions avec les organisations criminelles. Il faut se rappeler qu'au Mexique, pendant pas mal des années, depuis je dirais des années 30, et les fonctionnements de trafic de drogue, par exemple, c'était pas tout simplement avec la complicité de l'État, mais il y a pas mal de théories qui expliquent que c'est avec l'effort de l'État. Enfin, c'était les partis hégémoniques, qui sont les prix, justement, qui étaient derrière l'organisation des agriculteurs de pavots et qui leur ont et transformé en quartier. Donc, je suis pas très d'accord avec l'idée que c'était toujours les prix qui a tout contrôlé, mais c'est vrai qu'il y a des configurations au niveau local, qu'il reste des configurations au niveau local où c'est vraiment difficile de faire la différence entre les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et les pouvoirs criminels. Parfois, c'est vraiment difficile de faire la différence entre quelqu'un qui est un ancien maire, qui a aussi certains investissements dans n'importe quelle entreprise et qui peut-être est parti du trafic de drogue, soit en blanchissant d'argent, soit lui-même. Enfin, maintenant, par exemple, je peux le voir bien dans mon terrain, et comment des entrepreneurs, ses enfants, sont mariés avec les fils ou les filles d'un capot, d'un cartel, par exemple. Ça passe d'une façon normale.
Ah ouais.
Et après, cet enfant, c'est quoi? C'est parti de des bons ou des mauvais. C'est facile aussi de dire ici, c'est un monde des légal, illégal, des bons et des mauvais. Mais vraiment, quand on voit les phénomènes, c'est vraiment difficile de mettre la frontière.
On mesure toute la difficulté, effectivement. Oui. Alain Musset, comment le Mexique vit-il cette réputation de violence, de corruption, d'affairisme?
Ah ben c'est difficile parce que et d'ailleurs regardez, on est là pourquoi, pour parler de la violence et de la corruption, et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage de réduire le Mexique à cette image là parce qu'il y a quand même plein d'autres choses, et c'est un pays absolument incroyable sur le plan culturel, aussi bien le cinéma mexicain. Je veux dire, maintenant il n'y a plus un seul réalisateur nord-américain qui est pas en fait mexicain. C'est vrai, il y a la culture, la littérature, il y a cette force économique du Mexique, il faut pas l'oublier. J'ai partie des 10 pays les plus puissants. Exactement. Donc ça il faut pas l'oublier. Et on en parle que quand il y a de la corruption, du narcotrafic. Or c'est vrai, il y en a. Ou quand il y a un tremblement de terre, c'est quand même frustrant. Mais... et les Mexicains et les Mexicaines se sentent frustrés de n'avoir que cette image-là.
Est-ce que ça peut jouer donc en faveur de la lutte contre la corruption, cette réputation qui ternit l'image du Mexique?
Je vois pas comment il pourrait jouer là-dessus. Elle existe, elle y est, et là on peut rien faire. En revanche, ce que nous pouvons faire en tant que observateurs extérieurs, c'est de dire c'est vrai, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Et là, c'est peut-être aussi le travail des médias, et pas seulement français, de faire des émissions sur le Mexique et qui ne seraient pas consacrées qu'à la violence et au narcotrafic, par exemple.
Allez, il nous reste 20 secondes. Je vous les offre, Maria Martinez, pour me dire qu'à deux jours de l'élection, est-ce qu'il y a matière à optimisme?
C'est difficile d'être très optimiste.
En 20 secondes.
Mais je dirais qu'au court terme, je suis pessimiste sur l'arrivée de López Obrador, mais à long terme, je serais plus optimiste parce qu'il y a pas mal de choses qui, dans la société civile, sont en train de faire, qui, je crois, qui est bon, quelque chose, bon change à quelque chose.
Alors, restons sur cette note optimiste et merci à tous les deux. Alain Musset, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Je rappelle le titre du livre que vous avez publié chez Que sais-je, qui s'appelle tout simplement Le Mexique. Et Maria Martinez, qui est doctorante à Sciences Po, spécialiste de la criminalité et des violences au Mexique. Merci également à Florence Ponce qui a préparé cette émission, à Gérard Perrault à la documentation et à Claude Battista qui la réalise. Merci à vous de l'avoir suivi. Le débat se met en vacances pendant l'été. On va se retrouver bien évidemment dès la rentrée. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Un nouveau journal dans quelques secondes.